Ce sont des hommes, des femmes, engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise, engagés aux côtés de ces associations. C'est le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé de faire du mois de décembre le mois de l'engagement et d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute. Aujourd'hui, avec tous nos invités, nous allons évoquer une question qui était au centre d'ailleurs de la campagne présidentielle. Il y a eu un moment même des petits échauffourées entre les candidats sur la question de la place des enfants en situation de handicap à l'école. C'est quelque chose que l'on peut percevoir assez facilement, cette difficulté dont on parle assez fréquemment, de comment aujourd'hui accueillir les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap, qu'ils soient cognitifs, moteurs ou autres, à l'intérieur d'une école. Et aujourd'hui, on va évoquer une école un peu particulière, c'est l'école de la Chrysalide qui se trouve à Saint-Nazaire, qui utilise des techniques Montessori pour accompagner ces jeunes dans une démarche inclusive d'apprentissage. Et j'ai la chance d'être dans cette émission avec les deux parties prenantes de cette école, la fondatrice et toujours directrice de l'école de la Chrysalide, Patricia Bellard. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Et puis Marine Pignon qui en est la toute nouvelle présidente. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Et puis on le sait bien, une association, en tout cas dans le podcast Solidaire, une association ne peut pas être présente si une entreprise n'est pas à ses côtés. Et c'est Laetitia qui est avec nous. Laetitia, vous êtes collaboratrice de l'entreprise Cédréo. Si vous nous expliquerez un petit peu plus tard à quoi correspond Cédréo, ce que vous y faites. Mais on est très très heureux de vous accueillir, Laetitia Longeard. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci à tous les trois d'être avec nous pour évoquer cette question de l'école de la Chrysalide. Vous avez le sommaire, on se retrouve tout de suite après ça. Voilà, bah écoutez, je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en tout cas Patricia et Marine, pour évoquer l'école de la Chrysalide. On va commencer avec vous, Patricia, si vous le voulez bien. Patricia, l'école de la Chrysalide, je te pose souvent la question du déclic. Vous, le déclic, c'était votre fils ?
Oui, mon fils qui allait avoir 10 ans, qui était dans une classe spécialisée dans une école primaire. Et lors d'une réunion, on apprend, et sans surprise non plus, qu'il n'aurait pas de solution de poursuite de scolarité. Donc, il s'est retrouvé du jour au lendemain sans solution d'accueil. Et ce n'est pas ce qu'on souhaitait pour lui. Donc, il a failli partir en Belgique, interne. À 10 ans, c'était trop difficile pour nous. Et on s'est dit, mais ce n'est pas possible qu'en France, il n'y ait pas des écoles pour accueillir des enfants comme Mathéo. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, en 2011, nous avons créé l'association. Et en 2012, l'école ouvrait ses portes pour accueillir des enfants comme lui, qui se retrouvaient dans une volonté toujours d'apprendre avec les compétences qu'ils avaient. Et malgré tout, il n'y a rien pour eux.
Vous partiez de rien, Patricia ? Est-ce qu'il y avait déjà des écoles de ce type-là qui existaient, ou vous partiez vraiment d'une page blanche pour accueillir des publics comme ceux qui sont aujourd'hui accueillis à l'école de la Chrysalide ?
Alors, il y avait une école sur Paris, l'école Tournesol, qui avait un an d'avance sur nous, qui nous a bien conseillé pour l'ouverture de l'école. Mais autrement, le reste, c'était vraiment, en tout cas sur notre secteur, notre région, on était vraiment en page blanche et nous étions très précurseurs.
Alors, racontez-nous un peu cette histoire, parce que créer une école pour des enfants en situation de handicap. Alors, les handicaps, ce sont lesquels déjà, pour qu'on situe bien ? Je parlais d'handicap moteur, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça. C'est surtout des handicaps cognitifs ?
Non. Oui, tout à fait. En fait, ce sont surtout des enfants qui ont des difficultés pour accéder aux apprentissages. Alors, des difficultés cognitives, des difficultés dues aux troubles de la communication qu'ils peuvent avoir. Donc, ça se traduit par des enfants qui peuvent présenter un autisme ou une déficience intellectuelle due à une trisomie 21, due à un trouble neurologique. Mais c'est surtout des enfants qui ont des difficultés pour accéder aux apprentissages. C'est surtout ça notre porte d'entrée.
Les parents qui ont des enfants
enfants en situation de handicap se trouvent toujours face à une question qui est la question de la sélection. C'est-à-dire, est-ce que vous accueillez tout le monde ? Alors, est-ce que vous pourriez accueillir tout le monde si vous aviez plus de place et plus de moyens ? Ou est-ce que quand même, il y a un moment donné, il faut choisir pour pouvoir créer des groupes qui soient homogènes ? On a perdu Patricia. Elle va revenir. Voilà. Elle est revenue. Patricia, je repose ma question. Je disais, les parents de personnes en situation de handicap sont souvent face à des problématiques qui sont liées à la sélection. Vous n'êtes pas assez ceci, vous êtes trop cela. Dans votre école, l'école de la Chrysalide, si vous pouviez accueillir tout le monde, vous accueilleriez tout le monde ou quand même, pour créer des groupes homogènes, il faut quand même un petit peu sélectionner les enfants qui entrent dans votre école?
Alors, notre limite, ça va être un enfant qui n'est pas du tout en capacité d'être avec les autres. Un enfant avec des gros troubles du comportement, notamment de la violence. Là, nous sommes vraiment une école, nous ne sommes pas un établissement de soins. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment ça notre limite.
Votre limite, elle est sur le comportement et la capacité à pouvoir créer un minima du lien social sans qu'il y ait violence.
Voilà, c'est vraiment ça. Alors, autrement, pour revenir un peu sur ce que vivent les familles d'enfants en situation de handicap, on va dire que c'est surtout un isolement social. Mmh. Un isolement, donc pas d'accès à l'école, pas d'accès au club de sport, pas d'accès à la culture. Souvent, au niveau de l'entourage, de l'environnement, il peut y avoir aussi un isolement. Et voilà, c'est surtout par rapport à ça que voilà, notre combat, il est de se dire que chaque enfant a le droit d'avoir sa place et une vie comme les autres.
Alors, c'est une école, donc ça veut dire qu'il y a un programme. On suit le programme de l'éducation nationale. Comment vous avez travaillé les programmes pour qu'ils soient en phase avec les nécessités d'apprentissage et puis, quelque part, aussi avoir un petit peu le label école, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il faut suivre un certain cadre pour pouvoir avoir ce label.
Alors, nous sommes école déclarée auprès du rectorat. Donc, chaque enfant a vraiment son programme qui lui est propre. Nous avons des enfants qui sont lecteurs, d'autres qui ne sont pas du tout lecteurs, des enfants qui ne connaissent pas le système décimal, qui n'arrivent pas à compter jusqu'à 10, d'autres qui maîtrisent toutes les opérations mathématiques. Mais l'essentiel, c'est que chacun puisse progresser à son rythme et avancer dans ses compétences. Et le rectorat nous suit. Nous avons des visites
régulières
des inspecteurs de l'éducation nationale. Et ils soutiennent notre mode d'enseignement et ils voient bien que tout est fait pour que chaque enfant puisse avancer à son rythme.
Quels sont les résultats que vous avez obtenus ? Ça fait 12 ans maintenant, donc je suppose que les parcours de ces enfants, vous les suivez dans le monde associatif et dans le monde du handicap. On ne peut pas dire il est sorti de l'école, on ne s'en occupe plus. Enfin, en tout cas, je ne le crois pas. C'est pas en tout cas ce que vous dégagez. Alors, ils sont devenus quoi, ces premiers élèves qui sont rentrés à l'école de la Chrysalide ?
On va dire que les 4 premiers élèves sont maintenant en CDI dans un restaurant avec leur appartement. Donc, lorsqu'on a créé la Chrysalide, on ne savait pas du tout où ces enfants, quel avenir ils pouvaient avoir. Et en fait, finalement, ils nous ont montré leur capacité à faire des choix pour eux. C'est vraiment ce qui est travaillé déjà en amont à la Chrysalide, pouvoir se positionner, dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux faire. Et vraiment, la question du choix est fondamentale pour nous, comme devrait l'être pour tout être humain. Et donc, les jeunes qui étaient les premiers, donc maintenant, je vous disais, ont réussi à avoir un travail, donc une inscription dans le monde professionnel et aussi une inscription dans le monde social parce qu'ils ont un appartement avec d'autres personnes et ils ont une vie la plus autonome possible.
Et d'ailleurs, on pourra en parler peut-être avec la présidente, mais vous avez créé aussi une autre structure qui s'appelle l'envolée de la Chrysalide et qui permet justement à certains aussi de pouvoir trouver un lieu de travail dans la restauration. Il y a eu d'ailleurs un téléfilm qui a été fait sur ces restaurants extraordinaires. On peut penser à Nantes au Reflet, on peut penser aussi au Café Joyeux, on peut penser à ces lieux en fait qui ne sont pas discriminants parce que ces jeunes arrivent avec ce qu'ils sont et produisent un service pour tout le monde. Marine, je vais me retourner un peu vers Marine. Vous êtes la nouvelle présidente de l'association. C'était quand on prend la suite d'une fondatrice, dans quelle dynamique on se met et comment on arrive finalement à prendre sa place et vers quel projet vous avez envie de mener cette association ?
Alors déjà, c'est une grande fierté de pouvoir suivre les pas de Patricia qui est très inspirante, qui vraiment montre bah, montre ouais, une orientation et à la fois d'avoir tenu pendant 10 ans pour faire fonctionner cette... bah oui, parce que je dis tenu, parce que honnêtement, moi, ça fait 6 mois et je me dis, waouh, elle a tenu plus de 10 ans, et bah chapeau, chapeau. Donc, je dis ça parce que c'est une école, on en viendra après sur la collecte, mais c'est une école qui fonctionne sans aucune subvention publique, à part le soutien de la mairie de Saint-Nazaire, que l'on remercie avec leur subvention annuelle de 6 000 euros. Mais le reste, on a aucun financement de l'éducation nationale, on n'a aucun financement de l'ARS. Et donc, je dis que chaque année, c'est un combat pour aller chercher bah, l'argent pour faire fonctionner l'école et faire fonctionner de beaux projets. Donc, c'est pour ça que je dis tenu. Et c'est, voilà, avec beaucoup de fierté et aussi d'énergie, parce que quand je vois tout ce qu'elle a pu faire pendant ces années et ce qu'elle continue à faire aujourd'hui, et ça c'est aussi c'est une force de l'avoir toujours à nos côtés en tant que directrice pédagogique de l'école, bah voilà, c'est extrêmement motivant et effectivement de voir ce que font aujourd'hui les plus anciens élèves, bah voilà, donne toute cette force pour continuer, parce que bah parce qu'on a envie que les jeunes qui sont à l'école puissent aller sur les pas de leurs aînés.
Alors Marine, dites-nous d'abord, c'est combien d'élèves aujourd'hui l'école de la Chrysalide ?
Alors aujourd'hui, ils sont 16, avec deux groupes de 8, donc 8 qui sont vraiment concentrés sur les apprentissages scolaires et 8 qui continuent à avoir des apprentissages scolaires, mais pour lesquels on commence à travailler l'insertion professionnelle.
Alors 8, et le coût d'un élève, c'est combien ? Dites-nous tout.
Alors, le budget global de l'école, hein, sur l'année, c'est 220 000 euros. Voilà, donc vous divisez par 16. Donc voilà, et sachant que les familles contribuent aux frais de scolarité dans une certaine mesure, et on les accompagne également pour avoir des aides de la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées, pour être aidées justement dans ces frais de scolarité. Mais en gros, enfin voilà, on a tous les ans 150 000 euros à aller chercher une fois qu'on a retiré la contribution.
Voilà. C'est ça. Ça fait à peu près 14 000 euros arrondis, à peu près 14 000 euros par élève à trouver chaque année. Donc, en effet, c'est quand même des grosses sommes. Et cette collecte, elle a quoi pour objectif, Marine ?
Alors, j'ai envie de dire de contribuer aux frais de fonctionnement de l'école, mais plus particulièrement, cette année, on a deux projets que l'on veut mener et qui nécessitent des financements. Le premier projet, c'est un projet danse qui va être mené tout au long de l'année. Et en fait, les jeunes de l'école La Chrysalide vont avoir des ateliers de danse avec des jeunes de première du lycée, un lycée professionnel, la Kerguénec. Donc, il y aura 15 jeunes de La Chrysalide et 15 jeunes de ce lycée ordinaire. Et donc, ils vont avoir des ateliers de danse. Et l'objectif, c'est de construire un spectacle ensemble qui aura lieu le 7 mai. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de favoriser la rencontre entre des jeunes un peu extraordinaires et des jeunes plus ordinaires, voilà, des jeunes du lycée Kerguénec n'ont pour certains aucune connaissance du handicap, et donc l'objet c'est d'utiliser la danse pour favoriser la rencontre, favoriser la connaissance, les échanges et produire quelque chose ensemble. Voilà, donc là-dessus il faut évidemment des financements pour l'intervenante, pour le... également l'allocation des minibus, parce que les jeunes de la Chrysalide vont aller au lycée, de même que les jeunes du lycée vont venir à l'école. L'idée, c'est vraiment un partage. Voilà, donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est chaque année, il y a un séjour de fin d'année pour les jeunes qui partent 2-3 jours en dehors de leur cercle familial. Et là aussi, on cherche des financements pour un séjour qui leur permette de vivre des aventures. Et c'est vrai qu'ils ont très peu l'opportunité de partir sans... Ouais, sortir, partir sans les parents surtout. Et du coup, et ça reste des adolescents qui ont aussi envie de vivre et de vivre des aventures.
Et Dieu sait, et je pense que Patricia sera d'accord, et Dieu sait combien les parents sont contents quand ils partent sans eux, parce que ça leur fait un petit temps de répit. On pourrait en parler, hein, de la nécessité du répit chez les parents, parce que c'est vrai que c'est parfois... c'est pas qu'on n'aime pas nos enfants, mais... Il y a un moment, on a envie de trouver avec son mari et d'être paisible à la maison.
Et je vous le confirme, lors du séjour de l'année dernière, un retour de parents, c'était leur première soirée depuis 13 ans, donc date de la naissance de leur fils, où ils avaient leur première soirée ensemble. Je pense que c'est vrai pour tous parents, mais quand on est parent d'enfants en situation de handicap, c'est parfois aussi difficile, je pense, d'avoir du soutien, mais aussi parfois difficile de lâcher son enfant, parce que voilà, il y a plein d'appréhensions. Et quand c'est dans le cadre de l'école, eh bien, on ne va pas aller à l'encontre d'un projet d'école, et donc on le laisse partir. Voilà.
Moi, j'ai une nouvelle idée pour vous, Patricia, et vous créez les colonies de la Chrysalide, d'accord ? Hein, après, l'envoler pour bosser, faut créer les camps de vacances. Et puis comme ça, on aura la totale, hein, l'école, le travail, les vacances. Et tout le monde sera d'accord. Vous voulez... Allez-y, Patricia, je vous écoute. Non, je vous voyais faire un petit signe. Non,
on est tout à fait d'accord. Et...
Ouais. Dernier champ qu'on n'a pas, que nous n'avons pas exploré et qui, c'est vraiment un réel besoin.
Ouais.
Et je rajoute quand même qui commence à être exploré, puisqu'on commence à organiser quelques journées sur les vacances de sport adapté avec un formidable coach sportif. Donc c'est le début, c'est pas des colonies, mais c'est des journées.
Sport adapté dont on avait évoqué dans le podcast Solidaire la nécessité avec l'ouverture de salles de sport à des moments particuliers pour les personnes en situation de handicap qui souvent n'en ont pas des lieux où elles peuvent se retrouver pour faire du sport, et j'ai envie de dire dans des lieux commun. On va faire une micro-pause et on va retrouver Laetitia qui va nous faire son rapport d'étonnement. Qu'est-ce qu'elle a appris? Qu'est-ce qui l'a étonnée? Pourquoi Cédréo s'est engagé aux côtés de l'école de la Chrysalide? On va voir ça d'ici quelques instants, c'est juste après cette petite virgule. Voilà, on retrouve Laetitia Longard. Vous êtes une des collaboratrices de Cédréo. Alors, Cédréo, c'est une boîte d'informatique qui fait de la modélisation 3D. En gros, c'est si j'ai envie de refaire mon intérieur, je peux aller me connecter sur les petites applications de Cédréo pour permettre de refaire ma déco intérieure ou faire de l'architecture. L'architecture, bah, je crois que c'est quelque chose de ce type-là, mais je ne suis pas un grand spécialiste.
Hein. On n'est pas loin, mais ce n'est pas tout à fait ça. Bonjour, oui, Cédréo, on édite un logiciel d'architecture 3D qui, malheureusement, n'est pas à destination des particuliers, mais des professionnels. Donc c'est un logiciel qui va être utilisé par des constructeurs de maisons qui font du neuf, de la rénovation, mais aussi des maîtres d'œuvre, voilà, des professionnels du bâtiment qui, grâce au logiciel, vont pouvoir générer des rendus 3D de quelque chose qui n'existe pas encore et qui va permettre justement à leurs clients de se projeter plus facilement sur quel va être leur lieu de vie pour les prochaines années. Et depuis peu, on édite aussi des documents un petit peu plus techniques qui peuvent permettre, qui sont des pièces de permis de construire, par exemple, des choses comme ça. Mmh. Mais voilà, on s'adresse plus aux professionnels qu'aux particuliers.
Plus aux professionnels qu'aux particuliers, c'est bien dommage parce que moi, je serais ravi d'avoir un petit logiciel bien sympathique et limite pro pour pouvoir refaire mon appartement. Bref, ceci étant, ça, c'était d'essayer de comprendre quel. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Quel est le rapport entre Cédréo et l'activité d'enseignement de la Chrysalide? Comment s'est fait la rencontre? Racontez-nous tout. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition et le projet associatif de l'école de la Chrysalide, Laetitia?
Alors, chez Cédréo, on considère qu'une entreprise ne peut pas avoir une croissance saine si elle ne vit pas dans un monde qui, lui aussi, se porte bien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir contribuer par d'autres manières à avoir un environnement plus sain. C'est pour ça qu'on est certifié B Corp, on est aussi entreprise à mission, et notre mission, justement, c'est de développer les potentiels.
On va redire quand même pour les auditeurs ce que c'est que B Corp. B Corp, c'est une certification de haut niveau de responsabilité sociale et environnementale. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont certifiées B Corp parce qu'elle est extrêmement complexe à avoir et qu'il faut répondre à de nombreux critères pour pouvoir l'obtenir. Donc, ce qui prouve la dynamique dans laquelle vous êtes chez Cédréo et qui vous ouvre bien évidemment à l'engagement de mécénat et d'accompagnement de votre territoire aux problématiques de territoire.
Oui, voilà, c'est un choix que nous, on a fait. B Corp, ça agit sur cinq piliers, l'environnement, les clients, les collaborateurs et aussi, effectivement, le territoire. Nous, on a décliné notre mission globale d'entreprise au territoire. Et donc, quand on s'intéresse à notre territoire, c'est contribuer à son développement en partageant nos outils, nos expériences et nos connaissances. Donc, effectivement, c'est là où on arrive sur des actions plus concrètes de mécénat, mécénat en nature, mais aussi mécénat de compétences et mécénat financier. Et donc, on a voulu soutenir, on avait déjà soutenu la Chrysalide l'année dernière, parce que pour tout vous dire, l'année dernière, c'est les salariés qui faisaient des propositions d'associations pour les dons de fin d'année. Et c'est Christophe, donc un collègue qui connaît bien Patricia, puisqu'apparemment, ils ont d'autres enfants qui sont en classe ensemble, qui avait proposé cette association-là. Et donc, on a fait voter tous les collaborateurs. Et
c'est la Chrysalide qui l'a emporté.
Deuxième. Ah. Mais ça nous avait déjà permis de faire un don, me semble-t-il, de 1500 ou 1700 euros l'année dernière. Et au sein voilà, de notre pilier territoire, on s'est dit, mais on a envie d'aller plus loin, en fait, parce que faire du one shot comme ça en donnant à une association, c'est sympa, mais on aimerait bien aller un petit peu plus loin. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on a rencontré la BPGO qui nous a parlé de son système d'abondement, de cagnotte, etc. Et on a dit, bah, allons-y, ça ne peut pas être une coïncidence faite pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, on est très contents de pouvoir accompagner pour la deuxième année consécutive et puis surtout d'une façon un petit peu plus... Voilà, avec un don plus important cette année. Plus
conséquent. On rappelle que c'est, c'est une collecte qui se trouve donc sur la plateforme de solidarité grandouest.fr, une collecte qui vise 6 000 euros, puisque Cédréo, vous avez abondé à hauteur de 2 000 euros, le fonds de dotation et la fondation à hauteur de 2 000, et qu'on sait bien qu'un don d'un euro, c'est un euro de la fondation, un euro de Cédréo dans la limite des plafonds. Voilà, il faut y aller parce que 6 000 euros, ben, l'air de rien, c'est quand même 4-5% de la recherche annuelle, de la collecte annuelle nécessaire pour faire fonctionner cette école. Dans ce qui a été échangé, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous étiez déjà allé un petit peu à la rencontre de l'école avant, ou est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler aussi ouvertement de ce qui se fait au sein de cette école, Laetitia?
Alors, du coup, l'année dernière, Christophe nous avait présenté l'association et nous avait expliqué voilà, quel était leur objectif, etc. Ce qui fait qu'on suit un petit peu, enfin voilà, ça nous fait écho quand on entend parler, on tend un petit peu plus l'oreille. Donc, j'avais vu le reportage qui était passé sur France 3 aussi, qui montre un peu aussi les locaux, puisque je ne suis jamais allée... à Saint-Nazaire dans leurs locaux. Et justement, on parlait du rapport d'étonnement à la première question et je ne connaissais pas du tout les chiffres liés à l'école. Par contre, voilà, je comprenais ce qu'ils faisaient, pourquoi, etc. Et voilà, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'argent à aller chercher tous les ans et repartir de zéro. Comme ça. Je pensais qu'il y avait quand même une petite convention avec l'éducation nationale ou voilà, ouais. Et pas du tout. Donc voilà, d'autant plus important, je pense, de soutenir, puisque ça ne doit pas être évident d'aller chercher une telle somme tous les ans par tous les moyens, j'ai presque l'impression. Donc, voilà, d'autant plus important de soutenir ça, puisque c'était un message qui est quand même...
Et le conventionnement, Marine, Patricia, je ne sais pas laquelle des deux veut répondre, mais la question du conventionnement avec l'éducation nationale, elle est impossible, elle est complexe et elle est en cours, ou est-ce qu'elle est impossible ?
Par rapport à la question du conventionnement, on va dire que depuis notre ouverture, nous essayons de passer sous contrat avec l'éducation nationale. Ils nous ont renvoyé que comme nos enfants n'ont pas accès au programme officiel, c'est-à-dire quand on a 12 ans, on a un programme bien établi et nos enfants, à 12 ans, ne peuvent pas suivre le programme établi. Donc, a priori, ce serait une barrière pour qu'on puisse accéder à la mise sous contrat. Malgré tout, il y a un décret qui est sorti en 2021, il me semble, reconnaissant l'existence d'un enseignement adapté pour des enfants qui ont des besoins et des capacités différentes des autres, mais qui sont quand même en capacité d'apprendre. Donc, c'est un combat de chaque instant. Marine a repris le dossier des relations avec l'éducation nationale pour essayer de faire bouger les lignes. Mais voilà, en tout cas, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Laetitia, vous avez entendu un petit peu tout ça. Là, vous collaborez à cette collecte. Vous aimeriez aller plus loin encore avec Cédréo? Vous aimeriez encore que Cédréo aille plus loin? Peut-être, vous parliez de mécénat en nature. Est-ce que vous avez besoin aussi de coups de main? Je pose la question à Marine et à Patricia. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main de bénévole parfois pour encadrer, pour être présent ou pas, parce que vous avez le droit aussi de ne pas en avoir besoin.
Paul, j'ai envie de dire, on en a et on en a besoin, notamment une des notre source de financement, c'est que chaque année, la Chrysalide participe aux escales, donc qui sont 3 jours de concert à Saint-Nazaire. Et donc, cette année, d'ailleurs, nous étions 2 associations, la Chrysalide et l'Envolée de la Chrysalide, à tenir un stand. Et donc là, sur 3 jours, nous avons 80 bénévoles qui nous accompagnent. Pour pouvoir vendre des sandwichs, des boissons, et voilà, et ça fait un chiffre d'affaires, un bénéfice surtout vraiment important. Pour vous donner une idée, cette année, les deux associations ont eu 28 000 euros, soit 14 000 euros chacune. Mmh. Donc, par rapport à vos savants calculs, Patrick, ça fait la scolarité pour un élève, donc c'est quand même chouette aussi. Voilà.
Ouais. Donc, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, Laetitia?
Alors justement,
et de quelle manière, éventuellement?
Alors justement, on a réfléchi à cet été, là, dernier, comment on pouvait s'organiser, nous, pour aller plus loin. Et on ne sait pas encore, parce que le vote n'est pas sorti en interne, mais on a l'idée d'avoir, de soutenir une association phare, on l'appelle comme ça, à qui on proposerait en plus effectivement du mécénat financier, d'autres types de mécénat, mais ça peut aussi être, parce qu'on l'a déjà fait souvent, d'accueil de stages, de personnes qui ont besoin, de visites d'entreprises, des choses comme ça aussi qui rentrent un peu dans notre scope. Et donc on fait des propositions de thématiques d'associations à nos collaborateurs là au mois de novembre. Et en fonction des thématiques, de la thématique qui ressortira grande gagnante, on trouvera l'association qui correspond. Et effectivement, dans les thématiques, nous avons un petit inclus l'accompagnement des personnes en situation de handicap et plus particulièrement les enfants. Et pour aller plus loin aussi, plus petit, mais nous, ça nous tenait à cœur. On fait toujours une journée de Noël entre collaborateurs. Et donc, cette année, on a décidé de prendre le train, d'aller à Saint-Nazaire et d'aller manger à l'envolée de la chrysalide pour notre déjeuner de Noël 2023.
Merci, merci Laetitia, merci Marine, merci Patricia de nous avoir présenté l'école de la chrysalide, puis par ricochet l'envolée de la chrysalide et justement ces connexions qui se font aujourd'hui entre des projets de territoire, des entreprises et le monde associatif. On sait combien, alors les auditeurs qui me connaissent savent que je suis très attaché à la question des objectifs du développement durable et la notion des alliances territoriales me tient particulièrement à cœur. C'est ce que fait et permet de promouvoir aussi ce podcast solidaire porté par la Fondation et le Fonds de dotation. N'hésitez pas à aller sur la page internet du site internet de Solidarité Grand Ouest pour retrouver le projet de la chrysalide et faire vos promesses de dons, bien évidemment. Likez, partagez ce podcast. Et le 28 novembre, n'oubliez pas le 28 novembre, c'est Giving Tuesday. Et tous les dons sont multipliés par 4. D'accord ? Donc, tous les dons sur la page et qui sont faits sur le site internet sont multipliés par 4. Donc, allez-y. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Solidaire. On vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon moment à l'écoute des autres épisodes et des épisodes à venir. À très bientôt. Au revoir.